Comme on le fait régulièrement depuis le début de la crise, on va aller parler au président du Conseil du Trésor et député de la circonscription de Québec, Jean-Yves Duclos, pour faire le point avec ce qui se passe du côté fédéral en période de pandémie. Monsieur Duclos, bonjour.
Bonjour Éric et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Monsieur Duclos, aujourd'hui, le gouvernement fédéral annonce de l'aide aux provinces. D'abord, pourquoi il aide les provinces puis de quel type d'aide il s'agit?
Ben, écoutez, les provinces sont souvent, pas tout le temps, là, le Québec est un petit peu meilleur que d'autres en moyenne, là, mais les provinces ont plus de difficultés à accéder au marché du crédit. Le taux d'intérêt que les provinces payent sur leurs dettes là, est à peu près deux fois plus élevé que le taux d'intérêt que le fédéral paye. Okay. Les provinces ont aussi des énormes responsabilités en matière de santé, évidemment, en matière là, d'appui aux villes, en matière de services de garde et autres choses là, qui sont absolument importantes dans le contexte de la crise. Fait que c'est pour ça que le fédéral va les appuyer financièrement.
OK. Puis un appui financier, ça veut dire quoi? Qu'ils envoient un chèque ou qu'ils vont endosser des marges de crédit? Ou quel type d'aide on parle?
Bon, deux choses. La première qui a déjà été faite il y a quelques semaines, c'était d'endosser effectivement des marges de crédit, s'assurer que les provinces là, qui ont plus de difficultés à financer leurs dettes puissent avoir accès à des meilleures conditions sur le marché du crédit. Puis la deuxième chose, c'est une aide financière de 14 milliards qui est annoncée aujourd'hui par le premier ministre Trudeau pour des champs d'investissement que les provinces ont identifiés comme étant prioritaires. À nouveau, évidemment, la santé, mais aussi les services de garde, l'aide là, aux travailleurs en première ligne et autres choses absolument essentielles dans le contexte de la crise.
Okay. Il y a un programme que vous avez annoncé, ça a été un des tout premiers programmes que votre gouvernement a annoncé au début de la crise pour donner une subvention salariale là, aux entreprises pour qu'ils puissent garder leurs employés au travail plutôt que de les envoyer sur la PCU ou sur le chômage. Et on a appris cette semaine que le programme avait eu un peu moins de succès que prévu. Pouvez-vous nous expliquer, d'abord, rappelez-nous un peu la mesure, puis rappelez-nous un peu pourquoi ça n'a pas fonctionné comme prévu.
Bon, rapidement, donc, le programme fonctionne sur la base de 75% de subventions fournies aux travailleurs, fait que ça passe par l'entreprise, évidemment, mais il faut que l'entreprise se serve de cet argent-là pour payer des subventions salariales d'urgence aux travailleurs. Dans la grande région de Québec, là, on parle d'à peu près 60 000 travailleurs, dont 75% du salaire est financé présentement par ça. Ça a commencé tardivement pour deux raisons. La première, c'est que ça a commencé, là, évidemment, c'est la première fois de l'histoire que le fédéral faisait ça, fait qu'il fallait mettre en place un programme. La deuxième chose, c'est que les entreprises, au début, étaient prudentes parce que attendaient avant d'embarquer dans le programme de subvention salariale parce que se demandaient un peu à quoi allait ressembler le futur pour ces entreprises-là. Fait qu'il y a eu un départ plus lent qu'on l'espérait, mais la subvention était étendue jusqu'à la fin du mois d'août et depuis quelques semaines, depuis quelques jours certainement, là, ça s'accélère pas mal. Okay.
De quel pourcentage on parle, là? Tu sais, vous attendiez à quoi puis vous avez eu quoi en termes de, en pourcentage ou en termes de réel, là?
Bon, pour l'instant, il y a à peu près 2,5 millions de travailleurs au Canada qui sont couverts. Il y a, comme je disais, à peu près 60 000 de ces travailleurs qu'on trouve dans la très grande région de Québec. On s'attend à ce que, je vous dirais, là, ça augmente rapidement parce que ça va remplacer dans la grande partie des cas ce qu'on appelle aussi la prestation canadienne d'urgence de 2 000 $ par mois. Qui est souvent inférieur là, à ce que reçoivent normalement les travailleurs comme salaire.
Là, parlons-en de la PCU, là, de la prestation canadienne d'urgence, parce qu'il y a plusieurs petits commerçants à Québec, puis sûrement, M. le ministre, vous avez entendu parler comme moi, qui présentement font des 7 jours/semaine parce qu'ils ont de la difficulté à ramener leurs employés au travail parce qu'ils attendent que la PCU soit terminée. On sait que ça durait 16 semaines, donc ceux qui ont commencé dès le départ, là, ça achève. Est-ce que vous avez l'intention de renouveler ou non cette aide-là? Puis sinon, est-ce que ça veut dire que ces employés-là donc vont pouvoir retourner au travail là, dans les prochains jours, les prochaines semaines?
Là? Bon, à nouveau, deux choses. La première chose là, qu'il faut vraiment admettre, je pense, puis la plupart des gens le font, là, c'est que la prestation canadienne d'urgence, elle était nécessaire. Il y a, dans la grande région de Québec à nouveau, la très grande région, à peu près 250 000 personnes qui ont reçu la prestation canadienne d'urgence.
Donc, ça a été beaucoup plus populaire que l'aide au salaire, là, la subvention salariale. C'est 4 fois plus populaire dans la région de Québec, là.
Oui, parce qu'au début, là, il y a beaucoup d'entreprises qui fermaient tout court. Là. Il n'y avait plus rien. Là. Il n'y a plus rien à faire pour les entreprises et les travailleurs. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Sans cette prestation-là, là, il y aurait eu des familles qui auraient été incapables de mettre la nourriture sur la table. La deuxième chose, c'est qu'on s'attend à ce que cette prestation, c'est déjà en cours, soit remplacée par la subvention salariale pour relancer l'économie. Ça se produit déjà. Comme vous l'avez dit, il y a des jobs de plus en plus disponibles. Oui. Les gens savent que la prestation d'urgence, c'est une prestation temporaire. Les gens comprennent que ça ne sera pas là pour tout le temps. Donc, ils ont intérêt à prendre une job si cette job-là est disponible.
OK. Parce que là, je vois que... Donc, ça veut dire que la PCU, tranquillement, là, c'est en phasing out. Là. Fait que le 16 semaines, il ne sera pas étiré, mais évidemment, ça va être étiré dans le temps parce qu'il y en a qui ont commencé plus tard. Là. Fait qu'il n'y a pas de date butoir parce que vous allez y aller en fonction du nombre de semaines. Mais vous êtes clairement il y a une clause crépusculaire. Là. Vous êtes en train de sortir de ce programme-là. Là.
Vous êtes en train, effectivement, de travailler là-dessus parce que c'est clair que l'objectif, ça, c'est de relancer l'économie. Okay. Tout en étant conscient, évidemment, qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas de job. Ce matin, là, Éric, vous avez peut-être suivi ça, là, les statistiques sur les emplois sont sorties pour le pays. Au Québec, ça va mieux dans la province. On avait le plus haut taux de chômage de toutes les provinces en avril. Là, on est rendu dans la moyenne canadienne. On est rendu à 14 % de chômage. On avait 17 % en avril. Mais ça reste difficile, entre autres pour les étudiants. Les étudiants, vous savez, il y a beaucoup de choses qui circulent sur eux. Ben, il y a un an, leur taux de chômage, les étudiants qui poursuivent leurs études à l'automne prochain, leur taux de chômage était de 14 % Maintenant, c'est de 40 % Et qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de poursuivre leurs études, qui trouveront probablement pas de job cet été.
Mais il y en a beaucoup aussi qui en veulent pas de job parce qu'il y a mieux recevoir la PCU à 1250 par mois, là.
J'en connais pas beaucoup parce que la plupart des jeunes comprennent que c'est pas juste l'argent qui est important à la fin de l'été, c'est aussi l'expérience qu'ils vont avoir accumulée.
Je voulais vous parler de ça, justement, les chiffres sur le chômage, parce qu'on s'attendait tous à ce que ça monte. D'ailleurs, hier, je lisais, là, on s'attendait à ce que le taux de chômage frappe 20 % Il y avait plusieurs prédictions que le taux de chômage allait monter en mai. On a même vu aux États-Unis la même tendance. Ils sont passés de 15 à 13 % Ici, on est passé de 17 à 14. Donc, déjà en mai, alors que le confinement faisait à peine commencer, déjà, on voit que le chômage est en train de se résorber. Fait que les partisans là, d'une théorie du U ou du V, c'est-à-dire que l'économie va rebondir rapidement maintenant que la pandémie est en train de s'éloigner, semble gagner de la crédibilité. Là. Cette thèse-là semble s'accréditer.
Vous avez raison. Les statistiques sont encourageantes. C'est relié, comme vous l'avez dit, au déconfinement. Au Québec, on a déconfiné plus vite en moyenne qu'ailleurs au pays.
Donc, le chômage a diminué plus vite.
Oui, en mai, là, on a récupéré 30% des, au Québec, on a récupéré 30% des pertes d'emplois qu'on avait connues en mars et en avril. Ça, c'est au Québec. À l'échelle du pays, c'est juste 11%.
Puis en plus, là, faut comprendre que c'est pas fini le déconfinement. Là, on a un paquet d'autres secteurs qui vont s'ouvrir. Les bars, restaurants, c'est 250 000 travailleurs au Québec, c'est pas encore commencé. Là, ça commence juste la semaine prochaine. Je veux aussi que vous me parliez d'une autre affaire, c'est les personnes âgées, parce que votre gouvernement a décidé que ceux qui avaient la petite pension recevraient 300$, ceux qui ont en grosse pension recevraient 500$ par la poste. Au début de la semaine, on a annoncé, nous autres ici, que ça serait le 26 juin que les chèques seraient dans le mal. Hier, votre premier ministre a dit le 6 juillet. Qui dit vrai?
C'est la semaine du 6 juillet pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on voulait absolument éviter de forcer les aînés à appliquer pour le programme. Fait que là, ils n'ont pas besoin d'appliquer, c'est automatique. On s'est assuré que le système allait couvrir tout le monde. Puis la deuxième raison, c'est qu'on voulait que ce soit non seulement automatique pour éviter, entre autres, la fraude, là, pour éviter que les gens aient besoin de remplir un formulaire sur Internet, mais on voulait aussi que ce soit par dépôt direct. Puis en utilisant le système, là, il y a 98 % des aînés qui ont droit à cet argent-là, qui vont recevoir ça directement dans leur compte de banque.
Ils sont techno, nos vieux.
Ah, ils sont bons, on les aime, on en est fiers.
Monsieur le ministre, je veux que vous m'expliquiez, parce qu'il y a beaucoup d'économistes puis de gens qui prétendent que présentement, l'économie ne souffre pas trop malgré la crise parce qu'on a de l'argent un peu artificiellement qui est pompé par le fédéral, mais qu'à un moment donné, tranquillement, vous ne pouvez pas éternellement continuer à donner des 250 milliards comme vous l'avez fait au cours des dernières semaines et qu'à un moment donné, il va manquer d'argent du fédéral et c'est là qu'on va frapper le mur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces gens-là? Puis si oui, ça va être quand? Quand est-ce qu'on va ressentir l'impact économique de la catastrophe qui vient de se passer?
Bien, tout d'abord, vous avez raison de dire que l'argent direct, l'aide directe pour les familles et pour les petites entreprises, ça vient surtout pour l'instant du fédéral. 87 % de l'aide directe, c'est le fédéral qui l'a donné au cours des dernières semaines. Ceci étant dit, c'est le fédéral qui a la marge financière, les conditions d'emprunt les meilleures. Là. C'est un petit peu normal donc, que le fédéral prenne ses responsabilités. Mais c'est clair aussi que on s'attend à ce que l'économie reprennent, comme vous l'avez dit, en mode V, hein, donc que la plupart des secteurs d'économie reprennent, comme d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui, rapidement leur expansion. Mais on reconnaît aussi qu'il y a des secteurs, on parle à nouveau du tourisme, du transport, de l'événementiel, des arts et de la culture, tout ça, là, ça va prendre malheureusement plus de temps que pour les autres secteurs. C'est qu'on va devoir continuer d'être là, non seulement pour les entreprises, mais surtout pour les travailleurs qui vont continuer, dans trop de cas, là, de vivre des conditions très difficiles.
Pouvez-vous me dire le déficit va être à combien? Parce que tout le monde se pose la question. Là, on a eu une estimation à 252 milliards, mais votre gouvernement n'a jamais voulu confirmer ce chiffre-là. Est-ce qu'on se dirige vraiment vers ça ou c'est surestimé ou c'est sous-estimé?
Ben, le déficit, là, il va dépendre beaucoup de la reprise économique. Donc, tant qu'on n'a pas de bons indicateurs comme ceux qu'on commence à avoir ce matin là, sur la reprise économique, ça va être une boule de cristal, puis dépendamment de l'angle que tu regardes, que tu utilises pour regarder la boule de cristal, tu vas avoir certains chiffres ou d'autres chiffres. Donc, ça dépend vraiment de la reprise économique. On fait tout ce qu'on peut, évidemment, et tout ce qu'on doit, surtout pour que la reprise soit la plus forte et la plus rapide possible, mais ça dépend aussi des activités de déconfinement des provinces. Ça va dépendre des conditions locales, comme au Québec, là, je pense que on va repartir plus vite et mieux parce qu'on avait au début une très forte économie, un taux de chômage historiquement très faible, des entreprises solides, développement durable, développement technologique dans la région de Québec, le biomédical, l'industrie numérique. C'était du solide qu'on avait avant la crise.
Oui, mais le tourisme va nous frapper, le monsieur Duclos. Là, à Québec, là, vous le savez comme moi, l'industrie touristique cet été, ça va faire mal. Là.
C'est sûr que le tourisme, ça fait mal. Là. Les gens dans le domaine de l'hôtellerie, des restaurants, des services touristiques, du transport. Il y a beaucoup de gens. Et malheureusement, des gens qui travaillent fort, mais avec des conditions de salaire modestes. Là, des gens là, qui trouvent ça très difficile présentement dans le milieu touristique. Il faut pas hésiter de le reconnaître.
Là, vous allez m'aimer, monsieur le ministre, parce que hier, j'ai défendu votre chef, croyez-le ou non. Je sais que ça a fait beaucoup jaser ce qui se passe au sud de nos frontières. Évidemment, on est tous interpellés par ça. Votre premier ministre a pris 21 secondes avant de répondre à une question sur ce qui se passait au sud, puis pour essayer de s'ingérer dans la politique étrangère américaine. Puis, bon, je comprends que c'est un prof de théâtre, puis 21 secondes, c'était peut-être stagé, je le sais pas, là, puis je le saurai jamais, mais... En même temps, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens de s'ingérer dans la politique des pays étrangers. Si nous autres, on avait eu un président américain qui s'était venu s'ingérer du référendum au Québec, pas sûr qu'on aurait beaucoup apprécié ça. Est-ce que c'est ce que vous avez compris, vous aussi, de ce 21 secondes-là, que le premier ministre du Canada ne voulait pas s'ingérer dans un conflit américain?
Ben, je suis d'accord avec vous, Éric. On n'est pas toujours d'accord ensemble là-dessus, mais là-dessus, je suis d'accord. Le rôle premier d'un premier ministre, là, c'est de défendre non seulement les valeurs, mais aussi les intérêts des Canadiens et des Québécois. C'est pas facile. On aurait le goût de dire des choses qu'on pense vraiment en dedans de soi-même, mais il faut être responsable. Il faut réfléchir avant de parler. Ma mère a souvent dit que la parole est d'argent, mais le silence est d'or.
Ouais.
Elle a aussi dit que le silence vaut parfois 1000 mots. Et c'est ce qui s'est passé. C'est sûr que c'est tentant des fois de dire des choses, là, mais il faut toujours se rappeler que quand on est premier ministre d'un pays, on est responsable de plusieurs dizaines de millions de gens, de leur job, de leurs emplois, de leur qualité de vie. Puis la relation avec les Américains est absolument essentielle dans ce contexte-là.
Oui, pour la reprise de notre économie aussi. En terminant, je peux pas passer sous le silence le fait qu'il y a un des candidats à la direction du Parti conservateur, Erin O'Toole, qui a dévoilé aujourd'hui son plan pour le Québec. Il propose un plan très nationaliste, qui aurait pas d'ingérence, d'incompétence du Québec, que l'argent serait envoyé sans obligation. Un paquet de revendications qui sont à peu près unanimes à l'Assemblée nationale. Le fait de pas contester devant les tribunaux des lois qui sont adoptées par le Parlement du Québec, comme par exemple la loi 21. Un paquet de mesures qui j'ai l'impression, vont être très appréciées de tous les parlementaires, de tous les partis du côté de l'Assemblée nationale du Québec. Vous, M. Duclos, vous êtes quand même un député du Québec qui représentait la région de Québec dans ce gouvernement-là à Ottawa. On a souvent reproché aux libéraux et particulièrement à Trudeau d'être des centralisateurs à Ottawa. Est-ce que vous voyez comme quelqu'un qui amène les consensus québécois puis qui défendait ça à l'intérieur du gouvernement libéral? Ou si vous avez la vision trudeauiste puis vous essayez de venir nous la vendre ici au Québec, c'est quoi votre rôle dans ce jeu-là, dans cette dynamique-là, si je peux dire?
Bien, il y a trois choses. La première, c'est que j'ai pas lu ce que M. O'Toole a envoyé ce matin. Là,
Gérald, vous l'envoyez, oui.
Bon, merci, Éric, de m'aider. La deuxième chose, c'est que, oui, les Québécois, c'est très important qu'on prenne notre place à Ottawa puis qu'on rappelle régulièrement qu'on a non seulement une société qui est différente, mais aussi une façon de faire qui est souvent différente. Donc, on a des raisons de vouloir faire les choses par nous-mêmes. La troisième chose, c'est qu'on est plus fort lorsqu'on travaille ensemble. Donc, il faut que le gouvernement canadien prenne aussi ses responsabilités. On l'a vu dans la crise des dernières semaines. On est ensemble, c'est une fédération, un pays extraordinaire. On est plus fort parce qu'on est unis et qu'on collabore ensemble. Donc, essayer là, artificiellement de couper les intérêts du pays en morceaux, je pense que ça peut nous nuire davantage, que ça peut nous faire du bien. Nous, comme Québécois, on a toujours bien joué notre... On peut toujours faire mieux, évidemment, mais on a toujours bien joué, je pense, notre rôle à Ottawa. On va continuer à le faire au cours des prochaines années, j'espère bien.
Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor et député de la circonscription de Québec, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui.
Merci beaucoup, Éric, et bonne fin de journée.
À bientôt, au revoir.